CFM Lacaune, le MAG.
Du 10 au 13 juin, la route d'Occitanie traversera la région et la première étape arrivera à Lacaune-les-Bains. À cette occasion, je suis avec Mathieu Cobin qui est en charge des relations presse. Alors bonjour Mathieu et merci d'être avec nous aujourd'hui sur les ondes de CFM Radio.
Bonjour et ravi d'être avec vous.
Alors la route d'Occitanie, c'est une belle course cycliste qui réunit des équipes à la fois nationales mais aussi internationales. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la course pour ceux qui, comme moi, n'y s'y connaissent pas trop en cyclisme?
Alors la route d'Occitanie, on s'appelle comme ça depuis quelques années seulement, depuis la fusion des deux régions. Mais en fait, l'édition 2021 sera la 45e édition. Et la course s'appelait initialement le Tour du Tarn, le Tour du Tarn et du Rouergue, une année où justement on avait fait une arrivée à Villefranche-de-Rouergue, et pour s'appeler ensuite le Tour Midi-Pyrénées, la Route du Sud et la Route d'Occitanie, la Dépêche du Midi. Donc c'est une course en quatre étapes qui a lieu traditionnellement deux semaines avant le Tour de France. Elle est ouverte uniquement aux coureurs cyclistes professionnels. Et voilà, c'est l'occasion pour beaucoup de champions de venir parfaire leur préparation en vue des championnats nationaux qui sont une semaine après nous et du Tour de France qui est deux semaines après nous.
Donc on peut dire qu'on va pouvoir voir de belles équipes, de beaux coureurs. Il va y avoir quand même du spectacle.
Exactement. Nous sommes une des courses dans notre catégorie à avoir un plateau d'équipe et un plateau de coureurs le plus impressionnant. On aura notamment sur les 20 équipes qui seront au départ cette année, on a 8 équipes World Tour, donc de première catégorie, et c'est-à-dire toutes les meilleures du monde avec le team Ineos, le team Movistar, Astana, Groupama FDJ pour citer une française, etc., etc. Dans ces équipes-là, on aura parmi certaines des meilleurs coureurs du monde, comme chaque année. Et oui, voilà.
Et quels sont un petit peu les aspects peut-être techniques des quatre étapes? Quelles sont un peu les spécificités de chaque étape? Alors la première, c'est peut-être celle qui nous concerne le plus, c'est Cazouls-les-Béziers, Lacaune-les-Bains.
Exactement. Donc le jeudi 10 juin, on partira de Cazouls-les-Béziers. Pour une étape assez casse-pâte d'environ 150 km, 156 km exactement. Donc on aura une seule difficulté répertoriée sur cette étape-là, mais une difficulté de première catégorie, le col de Fontfroide. Et après un final sur la Cône, une entrée dans le Tarn vers Nage. Et un final avec une boucle autour de la Cône. Alors, un final plutôt réservé aux sprinteurs, vu qu'il n'y a pas dans les derniers kilomètres, il n'y a pas de difficultés majeures, même si c'est un faux plat montant depuis Vianne. Par contre, et ça, on a reçu l'analyse d'Arnaud Démare, qui est le champion de France et qui s'alignera au départ, les sprinteurs espèrent pouvoir passer ce col de Fontfroide, ce col de première catégorie, espèrent pouvoir passer dans le paquet, si je puis dire, pour pouvoir se jouer la victoire au sprint. Donc, éventuellement, on pourrait avoir la victoire d'une échappée ce jour-là avec un parcours casse-pattes. Pour la seconde étape, donc nous partirons de Villefranche-de-Rouergue le vendredi pour rallier Auch. Donc là, c'est une étape longue de 198 km, très casse-pattes, avec plein de... Quand je dis casse-pattes dans le jargon cycliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de plats. Et on aura souvent des petites bosses qui vont venir épuiser les coureurs. Et un final à Auch exceptionnel, vu qu'on termine sur le parvis de la cathédrale, sur la place de la Libération, avec un sprint. A priori, ça se jouera au sprint, mais un sprint en pente, en fait, avec 500 mètres, avec une pente généreuse.
D'accord. Donc, de la vitesse là aussi pour l'arrivée à Auch.
Exactement. Et c'est l'étape que Arnaud Démare a notamment coché sur ses objectifs. Mais voilà, il faudra pas se laisser surprendre. On a fait la même arrivée en 2015 et c'était Steven Tronet, un jeune coureur français qui a surpris tout le monde, alors qu'on avait quelques cadors qui étaient là, qui a surpris tout le monde dans le final et qui a gagné à Auch à la surprise générale. Et ce garçon était d'ailleurs une semaine plus tard champion de France.
D'accord, donc ça montre aussi que la course d'Occitanie est vraiment aussi un aperçu, un avant-goût des compétitions qui arrivent après.
Exactement. C'est même très souvent où on a un vainqueur d'étape français qui remporte les championnats de France la semaine d'après. C'est arrivé il y a 3 ans, justement, une arrivée à Cazaux-les-Béziers où Anthony Roux l'avait remporté pour gagner derrière. Arnaud Démare a déjà gagné chez nous pour s'imposer une semaine plus tard sur les championnats de France. Donc oui, c'est tout à fait ça. Avec notre proximité avec les championnats nationaux et le Tour de France fait que des garçons, des coureurs qui sont en forme sur la route d'Occitanie et qui s'illustrent sur la route d'Occitanie, et notamment parce qu'on a aussi un plateau de coureurs c'est très relevé, ces garçons sont susceptibles de briller sur les semaines suivantes, championnats nationaux ou Tour de France inclus.
Alors juste, on va passer à l'étape 3, ça sera donc le samedi 12, si je ne me trompe pas.
La troisième étape, c'est notre étape de montagne. On partira de Pierrefitte-Nestalas dans les Hautes-Pyrénées, c'est à côté d'Argelès. Et on va faire une première petite boucle autour de Pierrefitte pour ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement pour escalader le col du Tourmalet, donc bien connu du cyclisme. Des cyclistes. Ouais. Ensuite, on aura plusieurs dizaines de kilomètres d'un parcours relativement en prise avec des petites bosses. On va passer à Bagnères-de-Bigorre devant la cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand-de-Comminges, bien sûr. Et ensuite, on aura un final avec le col de l'Arieux et l'escalade, une arrivée inédite dans la station de ski du Mortis, qui est en fait sur les hauteurs du col de Menté, qui est très connu des coureurs. Donc voilà, on aura un final où les coureurs vont monter le col de Menté. Ils vont tourner à gauche pour avoir 2 kilomètres de bonus, si je puis dire, pour arriver au Mortis. Donc vraiment l'étape reine avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif qui sera destiné à un grimpeur, c'est une certitude.
Bon, donc là, l'étape vraiment pour ceux qui aiment la montagne, ça sera l'étape 3 samedi 12 juin. Et puis le final, ça sera le 13 juin, dimanche, avec une dernière étape.
Une dernière étape plus courte de 151 km. Donc on partira de l'avenue Pays d'Olme dans l'Ariège au pied du château de Montségur qu'on va d'ailleurs escalader dès le début de l'étape. Et c'est un peu notre étape du vertige, puisqu'on va passer par plusieurs lieux qui sont les citadelles du vertige, qui sont candidates pour rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc on ira en direction de l'Aude pour passer une première fois à Duyac sous Peyre-Pertuse, au village qui nous reçoit pour l'arrivée. Et là on aura une dernière boucle de 50 km magnifique, où on fera un petit décrochage par les Pyrénées-Orientales et on va passer devant le château d'Aguilar. On passe au col qu'on appelle le Gros de Maury, qui est en fait le col qui permet d'accéder au château de Quéribus. Et on redescend sur la vallée du Verdouble pour ensuite repasser à Duyac et une arrivée époustouflante, tant sportivement que d'un point de vue des paysages, pour arriver sur le parking du château de Peyre-Pertuse. Ce sera magnifique avec une dernière bosse de 4 km et un dernier kilomètre à 13%.
CFM Lacaune, le mag.
Merci d'écouter CFM Lacaune, c'est la seconde partie du mag spécial Route d'Occitanie. Je suis avec Mathieu Cobin, qui est donc responsable des relations presse pour la Route d'Occitanie. Alors en première partie d'émission, on a parlé des étapes, on va parler maintenant des coureurs. Mais avant, laissez-moi vous rappeler les moments forts un petit peu de la journée, puisque la course arrivera, on va dire, sur notre territoire après le col de Fontfroide. Elle passera à Fraisse-sur-Agoute vers 14h, à La Salvetat à 14h20. Un sprint est prévu à Nage à 14h40 à peu près, hein, bien sûr. Un second sprint à la Cône à 15h et après il y aura une boucle qui passera donc par la Bassine, qui redescendra sur Vianne et qui remontera par Gijounet. Ça sera donc à Gijounet vers 15h30 et puis l'arrivée bien sûr au stade de la Balmette à la Cône, avec tout plein d'animations qui sont prévues là-bas. D'ailleurs, on va y être d'ici quelques minutes depuis le stade de la Balmette avec les associations locales et de nombreuses animations. Alors Mathieu Cobin, on revient un petit peu à la course et vraiment au sport, puisque vous allez nous dire un petit peu quels sont les cyclistes qui vont se démarquer, quels jeunes pousses on va pouvoir découvrir aujourd'hui et puis pour les prochaines étapes.
Oui, on est très contents et on est enchantés tous les ans de recevoir un peu les nationaux, si je puis dire, en tout cas les régionaux. On aura Lilian Calmejean qui revient de blessure du team, le Tarnais du team AG2R Citroën, qui va faire sa reprise chez nous, qui est un sérieux concurrent pour aller dans des coups, dans des échappées, qui est vraiment un sérieux client. On aura aussi Alexandre Géniez, l'Aveyronnais, qui nous fait le plaisir d'être là cette année avec le team Total Direct Energy. Et ensuite, justement, j'ai rencontré Simon Carr, qui est un franco, qui a la double nationalité, française et anglaise, et qui a grandi dans l'Aude. Et je l'ai croisé justement la semaine dernière à sur les hauteurs du château de Père-Repertus, qui était là pour reconnaître, qui a 22 ans, qui sort d'un très bon Giro où il s'est illustré. Et donc, son équipe EF Education First Nippo la ligne au départ. Donc, voilà, des régionaux très, très bons.
Oui, qui seront à suivre.
Qui seront à suivre, qui auront la volonté de s'illustrer sur notre course. On a aussi un coureur lotois qui vient avec la sélection nationale, Afonso, qui sera là dans la sélection nationale de l'équipe de France.
D'accord, donc il y aura de belles choses à voir. Juste un mot sur le Tarn, parce qu'on est un peu chauvin. On voit là avec Lilian Calmejane, mais on a quand même pas mal de sportifs et de hauts sportifs cyclistes qui sont sortis du Tarn. Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment une culture cycliste ici chez nous?
Oui, il y a une culture cycliste. Bon, alors, déjà l'histoire du Tarn vis-à-vis de l'histoire du département avec notre course, elle est le Tarn est notre plus grand partenaire de par l'histoire commune. Nous, c'est la 45e édition et ça fait 45 ans que le département du Tarn est aux côtés de la route d'Occitanie. Donc pour nous, c'est on y fait étape chaque année. C'est bien sûr une étape incontournable et un partenaire incontournable de notre organisation. Pourquoi ces terres de champions? Ben, vous avez quand même un terrain de jeu. Alors je dis vous parce que je suis haut pyrénéen, mais vous avez un terrain de jeu qui est vraiment extrêmement complet pour les cyclistes, avec à peu près tous les terrains. Hein. Quand on va justement vers la Cône, on peut faire des entraînements en altitude avec des cols et des bosses qui sont très compliqués. On a des parcours plus régulier, plus plat sur l'ouest du département. Donc oui, je pense que vous avez un terrain de jeu fantastique. Et en plus, les champions qui sortent du département, on a cité Lilian Calmejane, il y en a d'autres, Stéphane Pouyès, Jean-Marc Marino, Cédric Coutouli, qui sont bénévoles sur notre organisation et on est très très content de les avoir, qui sont des anciens coureurs qui tarnaient. Et voilà, comment ne pas citer Jacques Esclassan avec qui la course a été créée, qui a été, je pense, quelqu'un qui a inspiré beaucoup de jeunes tarnés à s'inscrire dans la pratique du vélo.
Alors juste peut-être pour terminer, c'est aussi une ambiance, la route d'Occitanie, ça reste une course familiale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas c'est une course où l'ambiance est plutôt festive, où il y a toujours des spectateurs et cette ambiance-là. Pourquoi c'est important aussi d'avoir une bonne ambiance autour de la course en elle-même?
Je vais pas y aller par quatre chemins. C'est sans doute la course française la plus conviviale. Et peut-être de loin, la dernière course professionnelle organisée 100% par des bénévoles, c'est à souligner. Les contraintes réglementaires, etc., auraient pu affecter cette ambiance, cette convivialité. Et il se trouve que tous les ans, on a des bénévoles qui reviennent toujours plus nombreux, toujours plus enthousiastes, et qu'on arrive à organiser cette course avec... vous pouvez largement parler d'histoire familiale, parce que c'est une vraie famille, la route d'Occitanie. Et c'est au-delà de l'importance, c'est au-delà de l'importance, ce n'est pas important pour organiser la course, c'est qu'on organise la course pour ça, en fait. Les bénévoles qui sont mobilisés sur la route d'Occitanie sont là, certains sont fans de vélo, mais pas tous, et sont là pour passer un bon moment et réunir les gens. Et alors, vous me direz, c'est sans doute moins convivial depuis deux ans avec le contexte sanitaire que nous connaissons. Enfin, en tout cas, on va faire une deuxième édition de la route d'Occitanie dans un contexte quand même très particulier. Et malgré ça, on bénéficierait presque de ça parce que les villes qui nous reçoivent, qui sont partie prenante de, on organise la Route d'Occitanie avec les 8 villes qui nous reçoivent, n'ont pas vu d'événement depuis très longtemps. Les associations se sont vues interdire de nombreuses manifestations. Et nous, on arrive avec un sérieux, un savoir-faire qui fait que nous avons les autorisations pour lancer la course. Nous avons les autorisations pour organiser en recevant du public, parce que nous installons un protocole sanitaire quand même strict. Et du coup, dans les villes qui nous accueillent, toutes les associations, tout le tissu associatif, économique, bénéficient de notre venue. Et les gens sont très contents de se retrouver, dans le respect des gestes barrières, bien sûr. Mais les gens se retrouvent autour de la Route d'Occitanie, et encore plus en 2020 et encore plus en 2021. Donc oui, la convivialité, c'est une marque de fabrique. C'est pourquoi on organise. Et c'est ce qui fait que l'aventure dure depuis 45 ans.
Et que l'aventure continue. On se retrouve sur le stade de la Balmette cet après-midi. Et puis pour le MAG de ce soir, avec toutes les associations qui seront présentes sur place et des animations. Et puis bien sûr, vous retrouvez les coureurs qui vont passer par chez vous. Ils arrivent à 14h à Fraisse-sur-Acoute, 14h20 donc du coup à la Salvetat. Il y aura le sprint à 14h40 à Nage, je le rappelle. Autre sprint à 15h à la Conne, puis redescente vers Vianne et Gijounet vers 15h30. Et puis bien sûr, l'arrivée, les premiers coureurs devraient arriver vers 15h50 à la Conne, au stade de la Balmette. Et puis notez, côté sécurité, soyez prudents, respectez ce qu'on vous dit au bord de la route. C'est des bénévoles en plus hein, qui bloquent la route. Et la route sera bloquée pendant le passage des coureurs. Il faut compter entre 10 et 15 minutes. Merci beaucoup Mathieu Cobin d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie, à bientôt.